Je vous propose de commencer la soirée. Donc, ça va se dérouler de la façon suivante. Louis va commencer en faisant le commentaire de ce passage qu'on a lu pour ce soir. Fin de la page 78, début de la page 79. Laurence va continuer. Encore un petit effort pour devenir femme. Pour devenir femme. Voilà. Et ensuite, j'interviendrai à la fin sur l'hystérique homosexuelle. Enfin. Voilà. Donc, voilà. Je passe tout de suite la parole à Alice.
Bien. Pour ce soir, il me revient de commenter une phrase longue. J'ai décidé de la couper en deux parties, de façon à faire d'abord un commentaire sur la première partie, puis un commentaire sur la deuxième, englobant l'ensemble. Tout d'abord, une remarque générale. La phrase en question prépare une des thèses capitales de ce séminaire, qui est une thèse sur l'amour, qui constitue une avancée majeure dans la position de Lacan et qui sera commentée à la prochaine séance du séminaire qui va être la séance conclusive. Je dirais justement pour montrer que Lacan prolonge avec son avancée finale des questions essentielles présentes dans les commentaires d'aujourd'hui, à savoir l'amour et le courage, à quoi se reconnaissent et se choisissent les partenaires dans l'amour, les impasses aristotéliciens de l'amour et finalement l'affrontement à cette impasse. Ça prouve que le découpage des paragraphes a été bien fait. Pour résumer, on peut postuler que notre soirée sera marquée par le diagnostic de l'impasse d'un type d'amour, et la prochaine soirée sera celle de l'issue par un autre type d'amour. Je commence donc avec la première partie de la citation. Lacan dit « Ce qu'Aristote évoque comme la philia, à savoir ce qui représente la possibilité d'un lien d'amour entre deux de ces êtres, peut aussi bien à manifester l'attention vers l'être suprême, c'est renversé du mode dont je l'ai exprimé, c'est au courage à supporter la relation intolérable à l'être suprême que les amis se reconnaissent et se choisissent. Le hors-sexe de cette éthique est manifeste au point que je voudrais lui donner l'accent que Maupassant donne à quelque part énoncer cet étrange terme du hors-là. Le hors-sexe, voilà l'homme sur quoi l'homme spécule. L'âme specula. Donc c'est la première partie de la citation. Lacan commence donc par une référence, une conception de l'amour distincte des eros et qui concerne l'amour dans l'amitié. C'est une référence, une conception classique qui précède Aristote et qui impose une première question. Pourquoi évoquer particulièrement Aristote? Il s'agit pour Lacan d'une référence constante dans le séminaire encore. Il évoque notamment à plusieurs reprises l'éthique à Nicomaque. Si l'on se rapporte aux livres 8 et 9 de ces livres, l'éthique à Nicomaque, très lisible d'ailleurs, puis au texte d'Aristote, la politique, on s'est fait une idée assez claire sur la conception que celui-ci s'est fait de l'amitié. Il s'agit d'une amitié de partage. Elle peut inclure l'éros, c'est dans ce cas la philia de l'éros, qui serait l'amour qui inclut un désir sexuel, mais dont la condition fondamentale, c'est la réciprocité. Donc, à différence des eros, qui est le désir du un tout seul, qui peut aller vers l'autre, mais vise la satisfaction toujours de l'un, la philia se caractérise par la symétrie. C'est par ce trait, celui de la symétrie, que la philia se distingue aussi d'un amour qui donne et qui n'attend rien. Celui-ci serait l'agapé qui trouve un des représentants majeurs dans la charité chrétienne. Donc, la philia entre Eros et Agapé. Mais aussi, la philia concerne l'amour pour un être, pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il peut nous apporter. Donc, première remarque. Je ne pense pas qu'il faille complètement dévaluer la conception de l'amitié chez Aristote, car avant tout, elle souligne ce trait essentiel, c'est un amour qui s'adresse à l'être de l'autre. Après, je dirais en quoi il convient de relativiser la philia. Deuxième remarque, il est vrai qu'il y a une dimension idéale avec la philia, car pour Aristote, elle est la condition fondamentale du bien-être commun. Cela indique donc un type de lien basé sur l'intérêt de la cause commune. La philia, c'est la camaraderie, mais c'est aussi les compagnons d'une traversée. Voilà qui pourrait s'appliquer à nous, les compagnons de traversée de la cause analytique. Troisième remarque, il y a une exigence chez Aristote pour spécifier les raisons qui font de l'autre un ami. Si l'amitié est réciproque, elle est avant tout amitié entre deux êtres. C'est parce que c'est lui, c'est parce que c'est moi. Donc l'amitié n'est pas juste la bienveillance, ce n'est pas juste l'écrasement devant une cause commune, ce n'est pas juste la symétrie dans les rapports, et elle n'est pas uniquement guidée par la justice. Ces traits réunis feraient partie d'une dimension qui tiendrait compte du symbolique et qui se soutiendrait sur des traits imaginaires. J'ai même moi-même dans l'autre. Mais avec l'idée que mon ami, c'est lui parmi d'autres. C'est ce qui le fait unique, nous indique que la philia, en tout cas je le crois, n'exclut pas la dimension d'un réel. La preuve que la philia n'est pas l'amour de l'identique, mais l'identité des valeurs. Et de plus, elle exige la dimension de l'acte. On fait quelque chose pour son ami, non pas parce que ça, c'est dans l'ordre de la justice, mais parce que c'est lui et parce que c'est moi. Maintenant, Lacan évoque dans la philia l'amour entre deux êtres, et je le cite, « la tension vers l'être suprême ». Cela est explicite chez Lacan dans la phrase qui précède, puisqu'il fait référence au fait que chacun des êtres dans ce monde, je le cite, « ne peut s'orienter vers le plus grand être qu'à confondre son bien propre, avec celui-même dont rayonne l'être suprême ». L'être suprême, ce sont les termes d'Aristote pour indiquer une place, celle d'un autre absolu. L'être suprême qui rayonne sur les liens entre les êtres veut dire que les liens d'amitié entre deux êtres s'est fait sur un fond de tension dont la cause est un être qui en plus est plus d'être que les autres. C'est vers cet être qui serait l'être suprême qui doivent être guidées nos actions. Donc, c'est ce qui est mis à la place de l'idéal et par là même de la cause. L'être suprême est Dieu, lieu de l'autre, cette fois-ci pas le lieu des signifiants, mais le lieu d'un autre complet, qui incarnerait en plus un inatteignable pour le sujet et les autres êtres qui, eux, pour ne pas être suprêmes, sont en position des semblables et toujours en tension par rapport à l'être suprême. Maintenant, la question des choix entre les amis. C'est ici qu'il est question du courage, car Lacan dit que c'est, je le cite, « c'est au courage à supporter la relation intolérable à l'être suprême que les amis se reconnaissent et se choisissent ». On peut déduire qu'Aristote se réfère à une position éthique, Et quand on dit une éthique, on dit rapport au réel. On s'est choisi par une modalité bien spécifique de faire face au réel. C'est, on le constate, une conception très sélective. Ce n'est pas juste parce que l'autre est aimable que je l'aime, mais on aime un partenaire en fonction de sa façon de supporter l'intolérable face à l'être suprême. Autrement dit, le choix s'est fait par rapport à quelque chose qui ne s'articule pas, mais qui est articulable, qui serait le dire de l'autre. Le choix dans l'amitié serait « dis-moi quel rapport tu as avec l'impossible et je te dirai si tu peux être mon ami ». Donc j'ai conclu sur ce point. Il y a un réel, mais il y en a un par ailleurs de réel qui est exclu. C'est ce qui amène Lacan à désigner cette éthique de hors-sexe et convoque à ses propos le « hors-là » de Maupassant. Pour conclure sur un terme qu'il introduit, celui de hors-sexe, qu'il définit ainsi, voilà l'homme sur quoi l'âme spécula. La question se pose, pourquoi avoir convoqué le hors-là? J'ai emprunté ici des élaborations précédentes de Lacan sur le hors-là. Il s'insère pour démontrer le cas où le sujet est envahi par l'image étrange du double, soit lui-même, ce qui s'est véritablement produit à la fin de la vie chez Maupassant, quand il voit un fantôme qui lui tourne le dos et quand le fantôme se retourne, c'est lui, c'est Maupassant lui-même. Le hors-là, c'est le nom donné dans la nouvelle de Maupassant au cas d'un homme envahi par un être non humain, mais en position de double. Cela indique ce qui est dans l'humain qui ne l'appartient pas, mais qui le commande. Il m'est apparu important de revenir sur la remarque faite par Lacan dans le séminaire de l'angoisse, à la page 142, donc dans l'édition publiée. Il pose « Le hors-là, c'est hors l'espace, en tant que l'espace est la dimension du superposable. » Donc, Lacan se sert du hors-là pour exemplifier la dépossession, soit être pris dans une relation duelle pure qui dépossède le sujet de sa relation au grand autre. Il serait légitime de dire que si Lacan reprend le hors-là pour introduire le terme de hors-sexe, évoquant l'homme sur quoi l'âme spécula, c'est pour indiquer une éthique de l'amour basée sur la spécularité à tel point qu'elle dépossède de la relation au grand autre. Autrement dit, l'autre, le grand autre, est exclu. Et par l'exclusion de l'autre, ce qui est exclu, c'est l'altérité. Le hors-sexe, qui est défini par rapport à l'homme, ne lui est pas pourtant réservé, car juste après, Lacan aborde le hors-sexe du côté des femmes. Cela étant, la philia n'est pas la seule à être une éthique du hors-sexe. La liste, elle pourrait être plus longue et déductible d'autres références de Lacan, par exemple l'éthique du célibataire, les stratégies d'évitement sexuel qui trouvent leur paradigme dans l'amour courtois, et plus globalement toutes les pratiques sexuelles qui sont dans, on pourrait dire, l'anti-hétérité. Je ne dis pas anti-hétéros. Car on peut être hétéro et se situer dans l'éthique du hors-sexe. Il suffit de rejeter la différence pour être dans le hors-sexe. Je reviens maintenant à la deuxième partie de la citation. Lacan dit « Mais il se trouve que les femmes aussi sont amoureuses » et il met un chapeau sur le « A ». C'est-à-dire qu'elles aiment l'âme. Qu'est-ce que ça peut bien être que cette âme qu'elles aiment dans leur partenaire, pourtant homo jusqu'à la garde, dont elles ne sortiront pas? ça ne peut en effet les conduire jusqu'à ce terme ultime, et ce n'est pas pour rien que je l'appelle comme ça, hystérie, il écrit en grec, que ça se dit en grec, l'hystérie, soit de faire l'homme, comme je l'ai dit, d'être de ce fait homosexuel ou hors sexe, elle aussi, leur étant dès lors difficile de ne pas sentir l'impasse qui consiste à ce qu'elle s'est même dans l'autre, car enfin, il n'y a pas besoin de se savoir autre pour en être. Quand Lacan, après avoir évoqué l'homme et le hors-sexe, dit « les femmes aussi sont amoureuses », c'est pour indiquer qu'il y a une façon d'aimer chez certaines femmes qui est à inscrire dans le hors-sexe. Autrement dit, certaines femmes sont hors-sexe. Ce qui les caractérise, c'est qu'elles aiment l'âme. Lacan se sert ici de ce qu'il avait introduit comme homophonie d'écriture. Se servant d'une proximité dans la langue française entre le verbe « aimer » et le terme « d'âme » d'Aristote. Ce qui lui avait fait dire, dans le paragraphe juste avant celui qu'on commente aujourd'hui, que l'âme aime l'âme. Lacan donne une définition de l'âme. Ce qui permet de supporter l'intolérable de ce monde en ajoutant « jusqu'à nos jours, elle n'a, l'âme, jamais eu autre sens. » Les femmes amoureuses, c'est-à-dire qu'elles aiment l'âme, nous indiquent un amour qui s'adresse au même dans l'autre. Ce qui veut dire qu'elles aiment, elles s'aiment elles-mêmes à travers l'autre. Cela soulève une question. Je me pose la question suivante. Si le hors-sexe est l'éthique d'un amour du même, pourquoi Lacan le corrèle alors là? Je pose la question, car l'amour qui relève du hors-sexe correspond à une position impliquant en principe une suppléance. En aimant le même, on ne s'affronte pas à l'autre, au grand autre. En ce sens, l'éthique du hors-sexe est une éthique des solutions, alors que le hors-là, et c'est l'index d'un échec, l'échec de l'imaginaire. Autrement dit, le hors-là échoue alors que le hors-sexe peut réussir. La réponse à ma question se trouve, je crois, dans la dernière partie de la citation, où Lacan introduit l'hystérie. Il revient comme il l'avait déjà fait au terme de « homosexuel avec deux M ». Et à ces propos, il évoque l'impasse. Ceci veut dire que l'amour dans le hors-sexe conduit logiquement, en dernier lieu, à l'impasse hystérique. En quoi consiste-t-elle cette impasse? Lacan le dit. Ce qui le détermine, c'est que l'hystérie, par le fait de faire l'homme, elle s'est même dans l'autre. Il y a là deux idées. D'une part, par le fait de faire l'homme, elle se place du côté gauche de la sexuation, comme Patricia l'a écrit. Elle fait de même que l'homme, donc ici. Mais d'autre part, Lacan dit, elle s'est même dans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire, je crois, que par le fait de faire comme l'homme, elle se coupe la route vers le grand autre. Elle sait même, dans l'autre, revient à dire qu'elle règle la question de l'autre en rabattant l'axe qui conduit vers l'autre. C'est-à-dire, il le rabat pour être dans une relation au semblable. Autrement dit, en faisant le même, elle croit qu'elle font l'autre. C'est pourquoi Lacan parle d'impasse. Quelle est l'impasse? C'est qu'elle pense se sortir en faisant le même, alors que la seule possibilité pour être une femme est de maintenir la ligne qui se dirige vers S des grands tabarets. Là. L'impasse pour celles qui cherchent à être incluses dans le même est donc qu'il n'y a pas d'accès à l'autre jouissance, celle qui s'éloge du côté de S des grands tabarets. Cela revient à poser qu'il y a une seule issue à l'impasse, c'est serrer de se faire l'autre du partenaire à condition de le faire sans le savoir. Qu'est-ce que Lacan veut dire avec l'autre sans le savoir? Être l'autre sans le savoir. C'est là que l'impasse en quoi consiste la mémété dans l'autre rejoint la proposition sur le hors-là. Donc je réponds à la question que j'évoquais avant. Si le hors-là, c'est le hors-l'espace, et l'espace est défini comme le superposable, il faut comprendre que la femme qui est dans la mémété, elle est par là même dans le superposable, soit ce qui cherche une adéquation dans le même. Or, de même que Lacan va définir le hors-là à partir de la pure relation duelle imaginaire qui dépossède de l'autre, la mémété dans l'autre également dépossède de l'autre. Elle dépossède au partenaire de l'autre, c'est-à-dire elle fait que le partenaire n'est pas d'autre, mais dépossède de l'autre aussi à la femme, à celle qui incarne l'homme. Donc c'est un obstacle dressé dans le chemin vers S des grands tabarets. Pour conclure, il y a une cohérence dans la séquence évoquée. Elle part de la filia comme rapport entre deux êtres, mais dans la perspective d'un être suprême, soit l'autre, grand autre. L'être suprême, être mythique, n'existe pas plus que la femme, mais cela indique une orientation, un point de perspective. Les êtres moins êtres que le suprême doivent tendre vers cette position inatteignable, mais qui fait miroiter son existence comme possible. C'est serait la position idéale et en même temps optimiste. L'amitié dans l'amour, ce serait l'amitié comme chemin possible pour un couple. Lacan s'en détache tout en gardant la dimension d'un choix éthique dans l'amour. La séquence se poursuit par le hors-sexe et le hors-là qui ont ceci en commun. La prévalence donnée au lien imaginaire, croyant qu'on peut se passer de l'autre. Sauf qu'à exclure l'autre, il fait retour. C'est l'étrange de le hors-là, ou dans le cas de l'amoureuse, avec le chapeau sur le A. C'est l'impasse sans issue qui part de la croyance qu'une femme peut se passer de l'autre mais sans s'en servir. Plutôt, ce qu'elle va incarner ainsi, c'est le refus qu'elle fait de l'autre, croyant qu'il est possible de s'en sortir par un court-circuit. L'impasse, qui est relatif aux effets d'un amour, centré uniquement dans l'identification, soit « j'aime en toi ce que je reconnais en moi », exclut l'autre et sans l'autre, pas d'accès à l'autre jouissance. L'hystérie, puisque Lacan s'en réfère, comme étant la structure qui se soutient de cette position, étant la même dans l'autre, elle n'est pas la barrée. Donc, elle n'est pas la barrée. Et puisque la barrée est la condition pour s'éloger en S des grands tabarets, en refusant la de la barre, elle refuse de s'éloger, comme je disais, à la place du S des grands tabarets, ce qui revient à récuser le réel du sexe. L'éthique du hors-sexe, c'est hors la différence des sexes, hors donc castration, ce qui ne veut pas dire hors du sexuel. C'est pourquoi Lacan dit « le sexe ne compte pas ». Que le sexe ne compte pas n'exclut pas le sexuel. Et c'est aussi, en termes d'éthique de l'amour, mais on déduit que c'est une éthique autre qu'il revient à la fin de la leçon pour évoquer que la femme ne peut aimer dans l'homme que la façon dont il fait face au savoir dont il aime. Ici, ce n'est pas c'est lui à qui je suppose le savoir que je l'aime, et mais la façon dont un homme fait face au savoir, c'est toujours le savoir qu'on n'a pas. Ni l'un ni l'autre. Cela implique le manque de l'homme, soit qu'il puisse admettre qu'il ait un manque par rapport au savoir. Puis, et de façon conclusive, Lacan va revenir aussi à la fin du séminaire, évoquant ce que je disais comme une éthique de l'amour qui tient compte de l'impossible. C'est ce qui permet de sortir de l'impasse, car Lacan formule l'affrontement à l'impossible et la mise à l'épreuve de l'amour. Mais ça sera pour la prochaine fois.
Merci Louis. Je passe la parole à Laurence, qui va nous parler donc de la femme.
Merci. Alors, d'abord, juste un petit mot pour dire mes remerciements au CO de m'avoir proposé de venir travailler avec vous à un moment où ça m'était très très difficile et où je m'étais complètement arrêtée de travailler. Et donc, vous m'avez remis le pied à l'étrier et donc je voulais vous en remercier. Donc, j'ai changé un peu le titre, c'est devenu encore un effort pour devenir femme. J'ai enlevé le « dé » parce que je trouvais que ce n'était pas ce qu'il fallait. Donc je ne vais pas vous relire la citation, mais je vais parler effectivement de la filia, de leur sexe et du orla, mais alors de façon un petit peu décalée, vous allez voir. Donc j'ai choisi de commenter ces quelques lignes qui concernent Aristote et la philia, ce lien social que Lacan qualifie d'homosexuel avec deux M. Ces quelques lignes, je propose de les lire de façon un peu décalée, pour interroger ensuite le nouage du lien social et du féminin à la fin de la cure. Il y a plus de 540 occurrences du nom d'Aristote ou d'aristotélicien dans les séminaires de Lacan. Avec ou contre Aristote, c'est selon. Dans l'éthique de la psychanalyse, Lacan a opéré une répudiation de l'éthique du bien. J'ai bien aimé le mot de répudiation. Donc de l'éthique du bien qui est constitutive de l'éthique de la psychanalyse. Ça, c'est une citation de Sidi Ascofaré. Donc Lacan passe de l'éthique du bien, à celle du bien dire. Mais bien dire ne dit pas où est le bien. Et donc, dans le séminaire 20, il poursuit ce dialogue avec et contre Aristote, à qui il suppose un certain savoir sur le sexuel. Il y a un risque à parler du féminin. Déjà, Lacan nous prévenait dans télévision. La phobie du petit Hans, j'ai montré que c'était là où il promenait Freud et son père, mais où, depuis, les analystes ont peur. Alors, j'évoque la peur à mettre en rapport avec le courage à supporter la relation intolérable à l'être suprême, à quoi supplée l'amitié, la philia. J'essaie d'explorer jusqu'où mène cette nouvelle logique de Lacan à partir des formules de la sexuation qui distribue le choix d'une position masculine ou féminine en dehors de l'anatomie. Comment sortir de l'homosexualité avec deux M? Si le sujet, c'est l'hypothèse freudienne de départ, est masculin, qu'il soit homme ou femme, parce qu'il n'y a de libido que masculine dans l'inconscient et pas de signifiant du sexe de la femme non plus, alors Colette Solaire avait commenté Céline dans son séminaire « La malédiction sur le sexe ». L'amitié grecque est hors sexe et masculine. C'est un lien entre deux individus. C'est là qu'apparaît le mot d'homosexualité avec deux M, qui caractérise aussi l'hystérique, homosexuelle elle aussi, malgré son amour des hommes. Mais elle, bien sûr, elle fait l'homme. En plus, ce qui l'intéresse, elle, c'est le symptôme de l'autre. Hors sexe donc, ajoutons à cela que le sujet est toujours masculin. Donc, est homosexuel avec deux M. Fût-il des femmes, celui ou celle qui aime les hommes. En fait, est homosexuel celui ou celle qui court-circuite l'autre, l'autre sexe, le féminin, dans la mesure où l'hétérosexualité est la reconnaissance de la différence radicale, l'altérité radicale. Je signale au passage que Lacan écrit qu'Aristote fait de l'amitié l'essence du lien conjugal dans d'un traitement possible de la psychose. Le lien conjugal lui-même peut n'être pas hétéro entre hommes et femmes. L'inconscient est sexuel, mais il ne connaît que la libido masculine. Par conséquent, il n'y a pas de signifiant du sexe de la femme dans l'inconscient. La jouissance est en défaut du fait de l'impossibilité du signifiant à dire le réel. La jouissance sépare, l'amour agrège, la jouissance ne concerne pas l'amour parce qu'elle ne se partage pas. Il n'y a pas de complémentarité des jouissances. Vous serez d'accord avec ces formules qui disent toutes à leur façon un impossible de structure. Il n'y a pas de rapport sexuel, est-ce de grand tabaret. De ce rapport sexuel qu'il n'y a pas, Lacan nous propose dans sa note italienne qu'en agrandissant, je cite, les ressources du nouage RSI, on parviendrait à s'en passer, du dit rapport, pour faire l'amour plus digne que le foisonnement de bavardage qu'il constitue à ce jour. Je crois qu'on a commenté ces citations. L'amour vient à la place du non-rapport sexuel. José Mattei a déjà abordé cette question. Une fois atteint le point de différence radicale, cet amour plus digne ne concerne pas que les deux d'un couple, mais d'autres liens d'amour ou d'amitié, voire même des liens de travail. Mais il faut, pour que cela soit possible, cesser de penser sexuel sur le plan imaginaire. Pourquoi Lacan fait-il intervenir la filia à cet endroit du texte ? Il m'a semblé qu'il y avait une analogie, je m'y risque, avec la cure analytique. Pas toute la cure, mais quelque chose des débuts, quelque chose dont l'analysant doit se faire la dupe dans le transfert pour pouvoir aller au terme de sa cure et est-ce de grand tabaret. D'un lien social à l'autre, du discours hystérique au discours de l'analyste. Alors, arrivé à est-ce de grand tabaret, consentir au féminin, Albert Nguyen parlait des effets du patou dans un séminaire précédent. Qu'est-ce que cela change à l'amour, au lien social ? Je poursuis l'analogie. Quoi de plus hors sexe que la cure analytique ? Lien social à deux. Cela ne signifie pas que le sexe soit hors jeu. Il est d'autant moins hors jeu que Lacan a pu dire que l'analyste dans la cure est, je cite, « présence du sexe comme tel, à entendre au sens où l'être parlant le présente comme féminin ». Mais si la relation sexuelle y est exclue, on n'y parle que de sexe, surtout pour dire l'insatisfaction. L'analyste, lui, n'est pas dans cette éthique hors sexe, on l'espère, mais il n'est pas sans s'y prêter, se faisant semblant d'objet A dans le transfert, jusqu'à la chute du dit objet. Et puis, on peut aussi se demander sur quels critères on choisit un analyste. Se fait-il sur le modèle du choix du partenaire amoureux ou sur un autre choix ? Le courage auquel Lacan fait référence là, ne serait-ce pas pour l'analysant d'aller au bout du chemin, de se confronter au trou, à est de grand tabaret, à l'autre qui ne répond plus de rien. Ce franchissement d'un point d'angoisse et d'étrangeté est aussi inquiétant que la rencontre du hors-là. Horreur de savoir. C'est du rapport à l'autre sexe que se mesure le vrai courage dont il est question, me semble-t-il, le courage d'aller là où ne répond que le trou, que l'on soit homme ou femme, même si les chemins pour y arriver sont différents. Et là, les sujets peuvent s'inscrire, femme ou homme, du côté féminin des formules de la sexuation. La cure mène du lien hors sexe à la présence du sexe comme tel. Au bout du chemin, cela concerne aussi l'analysant, du moins on l'espère. À ce moment, le réel n'est plus recouvert par le rapport qu'il n'y a pas. On a tenu compte du réel, pris la mesure du hors-sens. Il n'y a plus de signification ni d'explication à la butée sur le réel, quel que soit le mode sur lequel nous l'avons rencontré. Il n'y a qu'une opacité, qui de la vie, de la mort et du sexe reste hors sens, radicalement. C'est un « il est impossible de savoir » qui constitue le seul gain de savoir. Reste que le sujet peut s'en faire une conduite. Et l'amour plus digne. L'amour vient de l'inconscient. Il est la connexité de deux savoirs inconscients en tant qu'ils sont irrémédiablement distincts. L'amour aussi est hors sexe. L'homme n'y a affaire qu'à l'objet du fantasme et la femme plutôt à est de grand tabaret. Ces objets, ce sont les enfants. Ça, c'est une citation de Lacan. L'amour est ce qui supplée au non-rapport sexuel et qui permet à la jouissance de condescendre au désir. La psychanalyse permet parfois de joindre amour et, loin du et lien du sexe, et quand bien même ce ne serait pas lui et pas elle, c'est quand même lui et elle. L'amour plus digne, c'est l'amour qui ne demande rien en retour. Un amour sans espoir de retour. Un amour qui ne peut se poser que dans cet au-delà où d'abord il renonce à son objet. C'est un amour qui renonce à compléter l'autre ou à être complété par lui. Un amour qui ne méconnaît pas sa dimension de haine. Pour pouvoir rencontrer ou aimer son prochain, il faut avoir été assez voisin de sa propre méchanceté, avoir rencontré sa propre saloperie. Objet A. Cet amour, c'est celui du couple. Mais c'est un amour qui peut s'adresser à d'autres, au prochain, dans d'autres liens que le lien du couple, dans le lien parent-enfant, dans les liens amicaux. Qu'est-ce que ce franchissement change dans le lien social et dans les groupes analytiques ? Lacan a fondé son école sur le mode du « faire école » au sens antique du terme, où se forme un style de vie. Quid de ce lien social hors sexe ? La prise en compte du non-rapport sexuel a-t-elle aussi des conséquences, et lesquelles, sur notre lien social ? L'idée de Lacan, c'est que quand nous nous reconnaissons comme des congénères, que Colette Solaire définit ainsi, ceux qui ont même jouissance et même mode de reproduction. Les analystes sont dits congénères car on espère qu'ils ont traversé les mêmes changements de désir et de jouissance. On ne fait que l'espérer en fait. Dans cette traversée, ils peuvent en témoigner, et dans la passe, et dans leur vie, dans le lien social. Les liens sociaux sont hors sexe, et pourtant, si la jouissance relève du signifiant, mais à son joint avec le vivant, c'est la quatrième de couverture des autres écrits, alors la présence du sexe s'inscrit dans le vivant. Cette présence sexuelle que j'appelle « palpitation de la vie dans le corps », non sans la solitude irrémédiable qui ne se complète jamais, comme l'amour nous en donne le mirage. C'est cela aussi qui rend l'amour plus digne, et cela dans toutes les relations, pas que dans les relations de couple. Dans les couples, il y a une illusion que cette solitude, on la partage, et cette illusion fait écran à la solitude radicale du sujet. Cette présence du sexe est un vide sur lequel résonne ce qui ne se dit pas en parole sur fond de solitude. C'est sans doute ce que Nicole Bousséroux suggérait dans un texte qu'elle avait publié dans L'Enjeu. Cette présence du sexe que Jacques Adam nomme joliment l'étoffe sexuelle pourrait-elle faire le lit d'un lien social renouvelé qui passe par le féminin ? Il me semble... Mais vous me direz si je me trompe, que les derniers AE nommés dans l'école sont toutes des femmes, même à l'état civil. Contrairement à ce que pensait Freud, donc un lien social renouvelé qui passe par le féminin, contrairement à ce que pensait Freud. Pour lui, les femmes étaient asociales. Est-elle suffisante pour nous éviter les effets de groupe ou la volonté de pouvoir qui nous reviennent régulièrement, comme le retour du même ? Peut-être que cela pose aussi la question de ce qui tient vraiment dans le temps des effets d'une cure achevée pour un sujet.
Merci Laurence.
Donc j'ai intitulé mon intervention l'hystérique homosexuelle avec deux M, parce que c'est quelque chose qui m'a attirée dans ce passage et qui m'a intriguée. Donc j'ai essayé par des tours et des tours d'essayer d'attraper quelque chose de ça, mais bon, on verra à la fin. Alors, bon, l'hystérique, donc, elle est vraiment au centre de la psychanalyse, comme le souligne Lacan. Freud a fait un pas essentiel en mettant en évidence que la sexualité est prise dans les mots et que c'est avec les mots que l'on opère. Et ces observations, Freud a pu les faire en écoutant des hystériques, et c'est ce qui a donné naissance à la psychanalyse. En observant les hystériques, Freud a montré que le rêve est l'accomplissement d'un désir et que l'hystérique a le désir d'avoir un désir insatisfait. Il a dégagé, parmi les particularités qui caractérisent l'hystérique, le soutien au père et l'identification à un homme à partir duquel l'hystérique interroge, questionne la féminité, sa féminité. On dit que l'hystérique fait l'homme. En 1971, Lacan fait lui aussi un pas essentiel en se servant de la logique pour rendre compte des impasses de la sexualité. Pour Lacan, comme pour Freud, c'est l'observation des hystériques qui les conduit. Les hystériques sont celles qui, dit-il, sur ce qu'il en est du rapport sexuel, disent la vérité. On voit mal comment on a pu se frayer la voie de la psychanalyse si nous ne les avions pas eues. Fin de citation de Lacan. Dans ce chapitre du séminaire encore intitulé « La lettre d'amour », Lacan ajoute aux formules de la sexuation un tableau là, qui décrit la façon dont chacun, selon qu'il se situe d'un côté ou de l'autre des deux modes de jouissance masculin et féminin, rencontre son partenaire sexuel. Dans ce passage de la fin de la page 78, début de la page 79, que Louis vient de largement commenter, je voudrais m'arrêter sur ce que Lacan appelle l'éthique hors sexe. Lacan introduit la notion d'une forme de lien social basée sur un amour hors sexe. À notre adresse, il écrit ce qu'il appelle une lettre d'amour pour nous en parler, et c'est la seule chose, dit-il, qu'on puisse dire d'un peu sérieux. Avant d'en arriver à ce que Lacan apporte de nouveau à propos de l'hystérique à partir de sa lecture des formules de la sexuation, je voudrais m'intéresser à une autre lettre, celle qui ouvre le volume des écrits, la lettre volée. Lacan dit extraire du texte d'Edgar Poe un message sur la lettre. Dans le texte des écrits sur la lettre volée, la lettre représentait le signifiant et l'effet du signifiant sur le sujet. 15 ans plus tard, dans le séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, Lacan nous renvoie à ce texte, mais donne un autre statut à la lettre. La lettre a pour fonction de rendre compte du rapport à la jouissance dans l'organisation d'un discours, c'est-à-dire la façon dont la fonction du phallus s'articule à l'impossible du rapport sexuel. Et il affirme que la lettre, c'est le phallus. Les élaborations sur le réel vont d'une part amener Lacan à établir une distinction entre le signifiant et la lettre, et d'autre part, il va préciser la notion de jouissance. En disant que la lettre, c'est le phallus, en faisant équivaloir lettre et phallus, Lacan associe à la lettre la notion de jouissance. Rappelons que le phallus n'est pas l'organe, en tant qu'il représente la jouissance sexuelle, il est insignifiant, mais c'est un signifiant qui n'a pas de signifié. Le phallus est ce qui fait obstacle au rapport sexuel, parce qu'entre l'homme et la femme, il y a un tiers terme qui est le phallus. Lacan amorce ici un tournant majeur en donnant les bases d'une élaboration qui va se concrétiser dans le séminaire encore, c'est-à-dire les premiers éléments qui permettront d'écrire les formules de la sexuation. À la fin d'un chapitre du séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, intitulé « Une fonction à ne pas écrire », Lacan commence à donner les premiers éléments de sa logique des formules de la sexuation. Cette fonction à ne pas écrire, c'est celle de la jouissance sexuelle, la première jouissance qui, si elle n'était pas interdite, ferait rapport sexuel. Pour écrire les formules de la sexuation, qui mettent en évidence l'impossible du rapport sexuel, du rapport entre les sexes, Lacan s'est servi du mythe de Totem et Tabou, qui, dit-il, est un mythe écrit. Il veut souligner par là, avec la double référence à ce mythe et à la logique, le rôle de l'écriture dans ces formules de la sexuation. Ce qui, dans la suite de ses développements, a un lien avec la notion de réel. Il est intéressant d'observer les différentes étapes de la démarche de Lacan qui aboutissent aux formules de la sexuation et de noter la distinction qu'il fait entre terme médian et tiers terme, pour souligner ce qui fait obstacle au rapport entre l'homme et la femme. Il dit donc qu'il y a un tiers terme, qui est le phallus. Lacan se réfère à Aristote, mais ce n'est pas la théorie du syllogisme dans la logique d'Aristote qui peut permettre de rendre compte de l'impasse du rapport sexuel. Pour écrire les formules des quantificateurs, Lacan a eu recours à la logique contemporaine pour cerner les impasses de la logique. En revanche, le syllogisme se compose de trois termes, dont un terme médian. Tout homme est bon, quelques animaux sont des hommes, quelques animaux sont bons. Le terme médian fait nouage, tandis que le tiers terme fait obstacle au nouage. D'ailleurs, quelques années plus tard, dans le séminaire Les Noms du Père, Lacan se servira du syllogisme pour montrer que deux termes ne peuvent être noués, deux à deux, que par un terme médian. Et il utilisera plusieurs exemples de ce type pour élaborer les thèses autour du nœud borroméen. L'impossibilité d'écrire le rapport sexuel se démontre dans la leçon du 19 mai 1971 du séminaire d'un discours qui ne serait pas du semblant, par un petit schéma qui illustre le tiers terme. Donc voilà, c'est le petit schéma que Lacan appelait le schéma de l'O moins 1. Il dit donc qu'il y a un tiers terme entre l'homme et la femme qui est le phallus. Alors, je propose de lire ce schéma de deux façons. Entre l'homme et la femme, le tiers terme est le phallus, et entre le phallus et l'homme, le tiers terme est la femme. Les impasses de la logique peuvent se lire soit à partir de l'exception, c'est-à-dire l'O moins 1 qui échappe à la fonction phallique, soit à partir du patou, la femme et son rapport à la castration. À ces deux modes de jouissance, il faut ajouter ce que Lacan introduit dans ce petit paragraphe que nous commentons ce soir, donc dans le séminaire encore, la jouissance hors sexe. Le mythe de Totem et Tabou, sur lequel Lacan s'est appuyé pour écrire la logique qui montre les impasses du rapport entre les sexes, peut être lu aussi sur un autre versant, celui du pacte social. Le pacte social est une forme de lien social basé sur un amour hors sexe qui, si on veut rester sur la logique des formules de la sexuation, peut se placer du côté homme. Le lien social se fonde sur l'homosexualité avec deux M, l'amour des hommes entre eux qui partagent le repas cannibalique. On pourrait mettre dans la même série que le mythe de Totem et Tabou, l'âme, la filia, l'hystérique homosexuelle. Le pacte social de Totem et Tabou est ce qui permet de supporter l'intolérable du meurtre du père. L'âme est ce qui permet à l'être parlant de supporter l'intolérable de son monde. Louis l'a déjà dit. La filia est ce qui permet aux hommes de supporter la relation intolérable à l'être suprême. Et l'hystérique homosexuelle qui fait l'homme est ce qui permet de supposer l'intolérable de la relation au sexe. Dans tous les cas, que ce soit Totem et Tabou, l'âme, la filia ou l'hystérique, il s'agit d'un amour hors sexe. Dans le mythe de Totem et Tabou, le lien social se fonde sur un amour des hommes entre eux. En ce qui concerne l'âme, Lacan présente l'âme comme un effet de l'amour. Tant que l'âme âme l'âme, dit-il, il n'y a pas de sexe dans l'affaire. Le sexe n'y compte pas. L'élaboration dont elle résulte est homosexuelle, donc avec deux M, comme cela est parfaitement lisible dans l'histoire. Fin de citation de Lacan. La filia est une amitié entre hommes. Leur sexe de cette éthique est manifeste, dit Lacan. L'hystérique s'interroge sur l'énigme de sa féminité par l'intermédiaire d'une identification à un homme. On dit que l'hystérique fait l'homme et de ce fait, elle est aussi homosexuelle avec deux M ou hors sexe. Si l'amour hors sexe est ce qui aide à supporter l'insupportable, À cet égard, l'âme, la philia et l'hystérique ont un rapport étroit avec le fantasme qui aide à supporter l'insupportable, l'intolérable de la castration. Je cite Lacan maintenant, il dit « J'apporte maintenant un complément essentiel à ce qui a déjà été très bien vu, mais que ça éclairerait de s'apercevoir par quelle voie ça s'est vu. Ce qui s'est vu, mais rien que du côté de l'homme, c'est que ce à quoi il a affaire, c'est l'objet A, et que toute sa réalisation en rapport sexuel aboutit au fantasme. » Par une série d'approches successives, Lacan décline les différents modes de rapport à l'autre. Rapport à l'autre sexe et ses impasses, mais aussi une forme de lien social hors sexe. Lacan dit de l'hystérique qu'elle est logicienne, dans la mesure où, pour l'hystérique, quelque chose s'écrit de « pour tout X, fi de X ». Le « toute femme » est l'énonciation dont se décide l'hystérique comme sujet, dit Lacan. Parce qu'elle exige la place de l'exception. En exigeant la place de l'exception, le « toute femme » est ce que l'hystérique énonce en tant que sujet, ce qui, selon moi, est tout à fait indépendant de son choix de jouissance sexuée. On parle toujours de l'hystérique au féminin, dans la mesure où, depuis Freud, la plupart des hystériques sont des femmes. Mais avec les quantificateurs introduits par Lacan, la catégorie homme ou femme est un choix de jouissance lié à la sexualité et la rencontre à l'autre sexe. Je pense que, quel que soit son choix de se situer du côté homme ou du côté femme des formules de la sexuation, l'hystérique est homosexuel avec deux M dans une autre dimension que celle de la sexualité. Elle se situe dans la dimension de la jouissance hors sexe qui conduit à une forme de lien social côté masculin. Si Lacan s'appuie sur la lettre volée pour illustrer la façon dont la fonction du phallus s'articule à l'impossible de rapport sexuel, la lettre d'amour avec un accent circonflexe sur le A va introduire une autre relation, une relation hors sexe. Par une approche empruntée à la logique mathématique, Lacan illustre les impasses de la relation entre l'homme et la femme. Sur un autre versant, l'homosexualité avec deux M, est un lien social basé sur un amour hors sexe situé côté homme des formules de la sexuation.